Très bon samedi à vous sur France Info, il est midi.
France Info, 10h, 14h, Jules de Kiss.
L'info à midi avec Armand Perrouloga. Bonjour Armand.
Bonjour.
À la une, les nouvelles restrictions qui s'appliquent dès ce soir.
Fermeture des grands centres commerciaux non alimentaires de plus de 20 000 m2, fermeture des frontières pour les voyages hors Union européenne. Et il faudra un test PCR négatif pour tous les déplacements au sein de l'Europe. Précision et réaction dans un instant. À suivre aussi la vaccination avec les questions autour du produit d'AstraZeneca, validé hier par le régulateur européen. Le gouvernement a donc fait un pari, celui de contrer l'épidémie de Covid sans reconfinement, mais avec de nouvelles restrictions. Dès ce soir, 18h, les grands centres commerciaux non alimentaires vont devoir fermer pour une période indéterminée. Terminez donc la fréquentation des grandes galeries marchandes, celles qui font plus de 20 000 m2, Jean-Lémarie.
Oui, concrètement, selon Bercy, 396 centres vont fermer ce soir. Ça représente environ 25 000 magasins. Pour Jean Castex, le raisonnement est simple. Dans les grands centres commerciaux, il y a beaucoup de brassage et donc le risque de contagion est plus important que dans les petits commerces. Les grands magasins sont concernés eux aussi. À Paris, par exemple, les Galeries Lafayette, Boulevard Haussmann et le BHV vont baisser le rideau. Le seuil, c'est donc 20 000 mètres carrés. Au-delà, tous les centres commerciaux non alimentaires seront fermés. Mais les représentants du secteur veulent des précisions. Ils ont rendez-vous ce midi au téléphone avec le ministre de l'économie. Bruno Le Maire leur détaillera aussi les aides prévues. Le fonds de solidarité sera mobilisé. Globalement, les fédérations de commerçants sont tout de même soulagées. Elles redoutaient une fermeture totale, y compris pour les magasins de centre-ville. Ce n'est pas le cas, en tout cas pas pour l'instant.
Autre mesure annoncée hier soir par Jean Castex, la fermeture des frontières françaises aux voyageurs hors Union européenne, sauf pour raisons impérieuses. Et il faut désormais un test PCR pour si l'on revient d'un pays de l'UE, y compris en voiture ou en train, sauf pour les travailleurs frontaliers. Quant au couvre-feu à 18h, il est prolongé pour une période indéterminée et sera davantage contrôlé, c'est ce qu'a annoncé le Premier ministre. Les Français échappent donc à un reconfinement pour l'instant. Alors comment ces nouvelles mesures sont-elles accueillies? Kathleen Comte s'est rendue ce matin sur un marché parisien rue Lecourbe dans le 15e arrondissement et les réactions sont plutôt contrastées.
Muriel, 50 ans, est maraîchère depuis 10 ans. Tout en installant ses légumes, elle réagit aux propos de Jean Castex.
Je pense que c'est une très bonne chose.
Pour elle, le gouvernement avance à tâtons.
Moi, je pense qu'ils savent pas trop bien quoi faire et qu'ils tentent chose par chose. En espérant que ce soit la bonne, mais bon, ils attendent les vacances scolaires pour nous confiner tous, pour pas qu'on parte en vacances. Je pense que c'est reculer pour mieux sauter, oui.
Plus loin, Marc-Olivier met en place ses fromages. Il est plutôt satisfait des annonces.
Je pense que c'est plutôt bien que ça soit pas confiné totalement. Pour les commerces comme nous, comme on est à l'extérieur, c'est beaucoup plus pratique pour les clients. On n'est pas confiné et je trouve ça logique.
Vous pensez qu'il va y avoir une annonce prochainement là pour changer?
Je pense, oui. Oui. C'est très compliqué. On ne sait pas ce qu'il va annoncer dans les prochains jours. On fait au feeling, quoi.
Et Monique, elle n'est pas du même avis. Elle s'attendait à un confinement.
Oui, nous avait préparé à ça, donc c'est stupide. Pour reconfiner dans 3 jours ou dans 8 jours, c'est vraiment bête. Je suis énervée, j'ai mon mari qui est très malade. Il n'a pas 72 ans, on attend des vaccins. C'est effrayant, quoi.
Des annonces qui ne font donc pas l'unanimité. Tous attendent désormais les prochaines consignes gouvernementales.
Et malgré le couvre-feu, il y a toujours des fêtes clandestines. Hier soir, une fête libertine a été organisée en Seine-et-Marne à Collégien. Une centaine de participants ont été verbalisés. La police cherche le ou les organisateurs présumés de cette soirée. Pour contrer le virus, il y a aussi la vaccination. Hier soir, plus d'1 300 000 Français avaient reçu une première injection. Et désormais, 3 vaccins sont validés en Europe. Celui d'AstraZeneca a obtenu hier le feu vert de l'Agence européenne du médicament. La France va se prononcer en début de semaine prochaine sur ce vaccin. L'Allemagne, elle, doute de son efficacité sur les plus de 65 ans. Les dirigeants de l'UE font aussi pression sur le laboratoire britannique pour qu'il respecte ses engagements en termes de livraison. À Londres, Richard Place.
J'attends qu'ils nous livrent les 400 millions de doses comme prévu. Au moment d'officialiser la mise sur le marché européen de son vaccin, Ursula von der Leyen remet la pression sur AstraZeneca. La firme pharmaceutique avait déjà fait part de ses difficultés d'approvisionnement. Son PDG les a confirmées hier soir. Il annonce donc une livraison de 3 millions de doses dans les prochains jours et pour le moment un total de 31 millions pour l'Europe. Mais Pascal Soriot précise que sa firme fait le maximum pour améliorer ce chiffre. Au passage, il répond aussi aux doutes émis sur l'efficacité de son vaccin pour les plus de 65 ans.
Les données que nous avons chez les patients âgés est le même que chez les patients plus jeunes. Notre opinion, c'est que le vaccin doit marcher chez les gens plus âgés, mais on a pour le moment un nombre de cas qui a été recruté qui est limité. Mais il n'y a pas de raison aujourd'hui de penser que le vaccin n'est pas efficace chez les gens plus âgés.
L'Agence européenne des médicaments autorise le vaccin pour les plus de 18 ans sans aucune autre restriction d'âge. En Allemagne, la commission de vaccination a remis un rapport au ministère de la Santé précisant que les données disponibles actuellement sont insuffisantes pour évaluer l'efficacité du vaccin au-delà de 65 ans. Londres, Richard Place, France Info.
Aux États-Unis, la tendance est à l'amélioration. Depuis deux semaines, les nouveaux cas de contamination et les hospitalisations baissent. Selon les experts, c'est dû à un meilleur respect des gestes barrières et à une meilleure immunité.
France Info, midi 6.
France Info, 10h, 14h. Jules de Kiss.
Ne pas reconfiner, du moins pas tout de suite, attendre, ne pas écouter en cela directement une bonne partie du corps médical. Est-ce un pari politiquement risqué? Réponse dans un instant avec Jérôme Fourquet, politologue, directeur du département Opinion à l'Institut de sondage IFOP. Avec nous en studio juste après le Fil Info à midi 10, le retour d'Armand Perrouloga.
La fermeture des grands centres commerciaux non alimentaires à partir de ce soir 18h et pour une période indéterminée. Ça concerne les galeries marchandes de plus de 20 000 m2. Il y en a près de 400 en France. C'est l'une des mesures annoncées hier soir par Jean Castex pour faire face à l'épidémie de Covid. Une téléréunion est en cours avec le ministre Bruno Le Maire pour fixer les modalités pratiques de cette mesure. À partir de ce soir minuit, la France va aussi fermer ses frontières pour tout voyage hors Union européenne. Et pour ceux qui viennent d'un pays de l'UE, il faudra présenter un test PCR négatif, même pour les automobilistes et les passagers des trains. Jean Castex a également promis un renforcement des contrôles pour faire respecter le couvre-feu à 18h. Hier soir, une fête libertine a rassemblé une centaine de personnes, au moins à Collégien en Seine-et-Marne. Les participants ont été verbalisés par la police qui cherche maintenant les organisateurs de cette soirée. Des manifestations en France aujourd'hui, rassemblement contre la proposition de loi sécurité globale dans de nombreuses villes. À Paris, le rendez-vous est fixé à 13h place de la République avec la participation d'artistes et de musiciens pour dénoncer également la fermeture des lieux culturels. Et puis la mise en examen ce matin de l'auteur d'un triple homicide. Cet ingénieur de 45 ans avait tué cette semaine deux responsables des ressources humaines dans des entreprises où il a travaillé dans le Haut-Rhin et en Ardèche. Il a aussi abattu une conseillère Pôle emploi à Valence.
France Info.
Est-ce un double pari que vient de prendre le gouvernement, pari politique et pari sanitaire, que de ne pas écouter les médecins et les scientifiques qui demandaient un reconfinement ? Nous pouvons encore nous donner une chance de l'éviter, explique le Premier ministre Jean Castex. Il préfère d'autres mesures qu'on rappelle rapidement. Jauge réduite dans les grandes surfaces, fermeture des plus grands centres commerciaux et restriction des déplacements vers l'étranger. Bonjour Jérôme Fourquet.
Bonjour.
Politologue, directeur du département Opinion à l'Institut de sondage IFOP. Vous avez écrit ce livre, L'archipel français, naissance d'une nation multiple et divisée. Qu'est-ce que vous retenez de ce choix de l'exécutif? Attendre, temporiser?
Oui, effectivement, contre toute attente, c'est le choix de mesures relativement modérées qui a été annoncé hier par le Premier ministre, comme si le reconfinement, le retour au confinement, était un petit peu la dissuasion nucléaire, le bouton qu'on actionnerait qu'en dernière instance, quand on aurait épuisé tous les autres recours. Alors tout ça se comprend à la fois sur un plan économique et psychologique. On le voit, la situation est très préoccupante en termes de santé mentale, de santé psychologique. Le coût économique de cette crise est déjà astronomique et colossal. Et donc replonger des secteurs entiers dans l'arrêt le plus total, comme ça avait été le cas en mars dernier, serait très très douloureux. Et on voit également, sur un plan plus politique ou d'opinion, que le degré d'acceptabilité d'un retour au confinement serait bien moindre qu'il n'a été par le passé. Je vous donne juste trois chiffres. Plus de 90% des Français avaient approuvé l'entrée en confinement en mars 2020. Nous étions encore à deux tiers d'adhésion en octobre dernier quand Emmanuel Macron avait annoncé le deuxième confinement. Et là, les dernières mesures qui ont été réalisées par l'IFOP et nos confrères tournaient autour de 45 à 50%. Alors c'est déjà un socle d'acceptation qui est non négligeable pour un troisième confinement, mais on voyait que le risque politique était plus grand. En évitant de prendre ce risque, on crée d'autres difficultés sans doute à venir, puisque on est sur une situation qui est très évolutive, et il est tout à fait envisageable que peut-être dans quelques jours, on ait de nouveau une allocution d'un des personnages les plus haut placés de l'État. Et il ne vous aura pas échappé que hier, on a dédié cette tâche à Jean Castex et non pas au président de la République, comme si on voulait se ménager un effet symbolique pour que, en cas de reconfinement, ce soit le président de la République en personne qui vienne l'annoncer.
On a entendu Jean Castex nous dire donc qu'on pouvait encore, qu'on avait une chance d'éviter le reconfinement, alors que dans les jours qui ont précédé, on en entendait monter cette petite musique d'un possible reconfinement. Le ministre de la Santé, Olivier Véran, avait déclaré des propos qui pouvaient laisser entrevoir cette hypothèse-là. Est-ce que continuer là-dessus, sur cette ligne avec Jean Castex qui nous dit que ça peut arriver, c'est un moyen de ne pas se contredire dans quelques jours si jamais on doit prendre cette mesure ?
Alors c'est sans doute la volonté de montrer à l'opinion et à la population que jusqu'au bout, on aura tout fait pour éviter ce recours ultime au confinement et qu'on essaye encore une fois de jouer sur tous les paramètres. Il y a néanmoins une petite prise de risque. Vous vous souvenez que l'annonce du deuxième confinement avait été faite un petit peu en catastrophe quand, pendant quelques jours, les chiffres de contamination avaient littéralement explosé. On était à plus de 50 000 par jour pendant le week-end qui avait précédé l'annonce présidentielle. Et donc, sans doute que tout ça fait l'objet de discussions très serrées avec les scientifiques pour dire est-ce qu'on a encore quelques jours devant nous ou est-ce qu'on est à 48 ou 72 heures d'un emballement de la fameuse courbe avec une trajectoire qui serait exponentielle.
Et justement, c'est ce qui est intéressant et peut-être ce qui explique cette différence dans le taux d'acceptation que vous avez évoqué avant, entre novembre et aujourd'hui, c'est l'idée d'un reconfinement par anticipation qui, semble-t-il, s'est envolé avec cette prise de décision de l'exécutif hier. Pour une décision aussi radicale qu'un reconfinement, il faut que les Français aient conscience qu'il n'y a pas d'autre alternative.
Alors, tout à fait. En même temps, on a préparé, si je puis dire, le terrain, puisque depuis une semaine, toute une série de personnalités éminentes s'étaient succédées dans vos studios et sur vos plateaux pour sonner le tocsin et annoncer et avertir les Français de la gravité imminente de la situation. Grâce à votre travail, les Français sont aussi informés sur ce qui se passe à l'étranger et on a vu la situation dramatique dans des pays voisins comme la Grande-Bretagne. Donc je pense que petit à petit, l'idée d'un confinement préventif faisait son chemin. Néanmoins, on a un effet d'accumulation qui est très lourd à supporter, encore une fois, économiquement et psychologiquement. Et sans doute que le gouvernement espère que cette courbe va rester dans une jauge acceptable et qu'on va pouvoir tenir sans doute jusqu'aux vacances de février qui, l'espère-t-il, vont permettre de limiter la circulation, notamment avec la fermeture des écoles, et de nous faire gagner un petit peu de temps. Tout se passe comme si le gouvernement estimait que chaque jour gagné, c'était de l'oxygène supplémentaire qui était apporté à la fois à notre état d'esprit collectif, mais également à notre économie, et qu'il faut le plus possible retarder cette issue fatale.
En fait, c'est une séquence politique importante à vos yeux en ce moment. Est-ce qu'il se joue aussi dans la tête de l'exécutif, c'est un horizon comme en 2022 avec la présidentielle?
Alors, il y a sans doute bien évidemment ces arrière-pensées, mais je pense honnêtement qu'on est là sur une gestion sur une échelle de temps qui est très très resserrée. On a reproché au gouvernement lors du premier confinement d'avoir eu un retard à l'allumage. Et donc c'est ça aujourd'hui qu'on essaye d'éviter au niveau gouvernemental. Et je pense que toutes les énergies sont concentrées sur la gestion de cette crise, encore une fois avec une prise de décision qui va avoir des conséquences très très importantes dans les mois qui viennent.
Et où en sommes-nous aujourd'hui, à vos yeux, du rapport entre la parole politique et la parole médicale? Est-ce qu'il y a de plus en plus de distance, après un an de crise, entre ces deux paroles?
Alors, on voit effectivement qu'il y a des dissonances. Ensuite, l'idée que le gouvernement essaye de faire passer et qu'Emmanuel Macron essaye de faire passer, ce qui peut s'entendre, c'est que la décision doit se faire en prenant en compte différentes informations et différents points de vue. Et donc, on a le point de vue, bien évidemment, très prééminent dans une crise sanitaire du corps médical et des scientifiques. Mais nous avons aussi, on peut le comprendre, le point de vue économique qui doit s'entendre, le point de vue aussi du ministre de l'Éducation, le point de vue aussi du ministre de la Santé, non pas sur le côté épidémique, mais sur le côté santé mentale. Et donc, l'idée qu'on essaye de faire passer, c'est que tout est une question d'arbitrage, de dosage, qu'on est sur un chemin de crête. Vous vous souvenez que le précédent Premier ministre, Édouard Philippe, avait dit « Nous n'avons le choix qu'entre de mauvaises solutions ». Et donc, on est un peu dans cette logique-là. Donc, la parole scientifique a bien évidemment un poids tout à fait important, mais le politique doit aussi tenir compte d'autres préoccupations. Dans nos enquêtes, nous avons davantage de Français qui sont préoccupés par les conséquences économiques et sociales de la crise que par le risque de contamination pour eux-mêmes ou pour leurs proches.
Et est-ce que, d'un mot, vous pensez qu'on peut justifier d'une décision en s'appuyant sur l'avis des médecins demain si on ne les écoute pas aujourd'hui ? C'est tenable ? Ce n'est pas trop paradoxal ?
Alors, il faudra voir. Je pense que ça pourra s'appuyer sur un avis médical, mais aussi sur des chiffres. C'est-à-dire, quand on a décidé de ne pas reconfiner, on était encore à 20 000 contaminations jour. Là, on est passé à 30 ou 35 000. Sauf qu'on a déjà entendu, dans les 48 heures précédant cette annonce, des appels au secours de la part du corps médical, notamment dans certains hôpitaux, en disant « ça y est, la vague épidémique est enclenchée et nous sommes face à elle ».
Avec en plus l'arrivée des variants qui changent en grande partie la donne et qui nécessitent une anticipation, nous disent les scientifiques, et cette hypothèse donc du reconfinement par anticipation qui était sur la table jusqu'à hier en tout cas. Merci beaucoup.
Merci
Jérôme
vous.
Fourquet, politologue, directeur du département Opinion à l'Institut de sondage IFOP, d'avoir répondu à l'invitation de France Info.
France Info, 10h, 14h, Jules Dekis.
Vous écoutez France Info, il est 17h30. Et un nouveau point sur l'information avec Pauline Renoir.
Plus que quelques minutes pour terminer vos courses dans les grands centres commerciaux. Près de 400 hyper de plus de 20 000 mètres carrés ferment ce soir pendant au moins 4 semaines. Nouvelles restrictions sanitaires contre l'épidémie de Covid, les rayons alimentaires restent ouverts. Une autre contrainte pour les commerces, validée cet après-midi lors d'une réunion avec le ministre de l'économie, la jauge de fréquentation des grandes surfaces est renforcée. On passe à 10 mètres carrés par client au lieu de 8 pour un magasin de plus de 400 mètres carrés. L'Union européenne impose à partir d'aujourd'hui des garde-fous aux exportations de vaccins anti-Covid. Les États membres veulent garder le contrôle des doses qui leur sont destinées. L'Organisation mondiale de la santé dénonce ce dispositif. Et on connaîtra l'avis de la haute autorité de santé sur AstraZeneca la semaine prochaine. L'Allemagne refuse d'utiliser ce vaccin sur des patients de plus de 65 ans.
Avec un vent turbulent des Pyrénées à la Méditerranée, plus au nord, malgré les nuages, maintien d'un temps sec le matin avant le retour de pluie faible par l'ouest l'après-midi.
Jean-Michel Golinski pour ses prévisions. Météo France, merci d'écouter France Info, 18h.
France Info, 17h, 20h, Augustin Arrivé.
Retrouvons au micro François Lepage, bonsoir.
Bonsoir.
Elles sont environ 400 concernées en France.
400 galeries marchandes qui ferment leurs portes en ce moment. Grands magasins non alimentaires, c'était la ruée aujourd'hui avant fermeture. De nouvelles manifestations contre la loi sécurité globale dans une cinquantaine de villes avec parfois des dispersions sous tension. C'était le cas à Place de la République. Un coup de force de supporters de l'OM en colère à la Commanderie cet après-midi, le centre d'entraînement du club. Les policiers ont été violemment pris à partie.
Et le reconfinement qui attendra, des réactions à suivre dans la prochaine demi-heure sur France Info. Dans une dizaine de minutes, l'avis d'un infectiologue. Et puis les réactions de l'opposition à l'Assemblée nationale.
Ils baissent en ce moment même leurs rideaux, couvre-feu oblige et ne rouvriront pas avant au moins un mois. Les grands centres commerciaux non alimentaires appliquent ainsi les mesures décidées par l'exécutif pour faire face au coronavirus. Cette fermeture concerne environ 400 galeries marchandes en France avec à chaque fois une forte affluence ces dernières heures. C'est le cas du centre Beaugrenelle dans le 15e arrondissement de Paris. Kathleen Comte.
Il y avait foule, rue Linois, paquets à la main. Certains n'ont pas hésité à faire la queue pour rentrer dans les magasins comme Maëlle et Claire, 27 ans toutes les deux.
J'ai C'était un peu la dernière journée où on pouvait un peu sortir et faire les magasins avant d'être reconfiné entre guillemets.
Alors moi j'avais pas vu l'annonce, mais je m'étais dit que soit on allait être confiné, soit que ça allait être fermé, donc fallait en profiter avant qu'on puisse plus, déjà qu'on n'a pas le droit de faire grand chose.
Plus loin, Didier, 50 ans, est venu avec ses deux enfants.
Et la dernière sortie, avant de pouvoir se dire on va être confiné encore pendant quelques semaines, donc on prend cette opportunité aujourd'hui pour pouvoir sortir.
Mathilde a profité de l'occasion d'être dans le quartier pour faire quelques emplettes.
On s'est dit, on est dans le quartier, alors pourquoi pas aller faire du shopping, puisqu'à partir de demain, on ne peut plus. On en profitera pour aller voir les petits commerçants dans notre petite ville en banlieue. On espère qu'ils laisseront passer la Saint-Valentin quand même, hein. Ce serait cool.
Mais avant de penser à la Saint-Valentin, Maïra est surtout venue profiter des soldes.
J'avais peur qu'ils allaient refermer les magasins. Je trouve que c'est plus sympa d'acheter en magasin qu'acheter en ligne. Et du coup, voilà, on s'est dépêché un peu aujourd'hui pour faire des éventuels derniers achats.
Concerné par l'annonce de Jean Castex, Beaugrenelle est donc obligé de fermer une partie de ses commerces à partir de demain.
Un reportage de Kathleen Comte, la partie du centre consacrée au commerce alimentaire. Elle restera ouverte. Une téléréunion était d'ailleurs organisée cet après-midi avec les ministres Bruno Le Maire et Alain Griset pour fixer les modalités concrètes de ces mesures. Seuls les commerces alimentaires des grandes galeries marchandes pourront rester ouverts, tout comme les grandes surfaces alimentaires, mais avec une nouvelle jauge d'une personne pour 10 mètres carrés au lieu de 8 jusqu'à présent.
Autre mesure annoncée hier soir par le Premier ministre, la fermeture des frontières françaises aux voyageurs hors Union européenne, sauf pour raisons impérieuses.
Un test PCR sera par ailleurs demandé pour toute entrée cette fois en France en provenance d'un pays de l'Union, qu'il arrive par le train, la route, les airs ou la mer. L'Union qui ne peut imposer des règles communes car elle relève de la souveraineté nationale. Il y a donc des conditions d'entrée différentes dans chaque pays, Lakshmi Lothar.
Chaque pays a défini ses propres règles. En Belgique, il est interdit depuis mercredi de sortir ou d'entrer sur le territoire pour des raisons de tourisme ou de loisirs. Seuls les voyages dits essentiels sont autorisés et il faut apporter des preuves pour motiver son déplacement. De nombreux États réclament désormais un test PCR négatif à l'entrée du pays, y compris auprès des citoyens membres de l'Union. C'est le cas de Malte, l'Italie, l'Espagne ou encore la Croatie. Certains demandent une quarantaine allant de 5 à 15 jours, l'Islande, la Pologne, la Roumanie, les Pays-Bas et la Grèce. La Hongrie va plus loin. Elle a décidé de fermer ses frontières à tout ressortissant non hongrois ou non résident, quel que soit le motif du voyage. Seuls deux membres de l'UE n'exigent rien des Européens se rendant sur leur territoire, la Suède et le Portugal. Bruxelles, Lakshmi Lothar, France Info.
Et la Hongrie du populiste Viktor Orban qui fait également cavalier seul. Côté vaccin, elle valide le vaccin chinois après avoir approuvé le vaccin russe la semaine dernière. Deux vaccins non homologués par Bruxelles. Un bras de fer de plus pour Viktor Orban, Élise Delève.
Depuis qu'il est au pouvoir, Viktor Orban ne cesse d'affronter l'Europe. Sur la migration, sur l'état de droit, la Hongrie fait ce qu'elle veut et ce sera pareil pour les vaccins. Le Premier ministre ultraconservateur fustige à la radio les lenteurs de Bruxelles. Quelque chose ne tourne pas rond. S'il n'y a pas de vaccin de l'UE, prenons-le ailleurs, sous-entendu en Chine et en Russie. En réponse, Bruxelles concède que les États ont le droit de signer des contrats qui n'entrent pas dans la stratégie européenne, mais que l'approbation de l'Agence européenne des médicaments est importante. Pour l'instant, l'Europe ne considère pas les vaccins russes et chinois. Les 27 sont plutôt unis sur la question. Les vaccins venus de Chine ne respecteraient pas certains critères essentiels à la validation, comme la capacité de production sur le territoire européen ou des données scientifiques rigoureuses. Si Viktor Orban affiche fièrement une victoire sur l'UE dans le dossier des vaccins, il lui reste à convaincre sa propre population. Une large majorité admet préférer les produits Pfizer et Moderna, plus efficaces, 94% contre 79% pour le vaccin chinois.
Élise Delève, l'interview d'Emmanuel Macron à la presse internationale, le chef de l'État l'a accordé à plusieurs journaux étrangers, dont La Repubblica, Le Guardian ou encore le New York Times. Sur la gestion de la crise sanitaire en France, Emmanuel Macron assume le quoi qu'il en coûte. C'est en quelque sorte, dit-il, un dispositif de respirateur artificiel pour les entrepreneurs et les salariés et de miser désormais sur la vaccination. L'épidémie, dit-il, s'arrêtera quand on sera tous vaccinés.
De nouvelles manifestations contre la loi sécurité globale et pour défendre le droit à la culture aujourd'hui.
Dans une cinquantaine de villes, avec parfois des dispersions sous tension, c'est le cas place de la République, entre 1000 et 2000 personnes s'étaient rassemblées, Yann Gallic.
Sur le podium installé place de la République, les prises de parole se succèdent avec les représentants des principaux syndicats de journalistes et des associations opposées à ce projet de loi. Les manifestants réclament toujours le retour retrait de l'article 24 qui veut pénaliser la diffusion malveillante d'images des forces de l'ordre. Il s'inquiète également de l'usage des caméras piétons et des drones par les policiers. Delphine est travailleuse sociale dans l'administration pénitentiaire.
Pour moi, la police, elle doit être au service des citoyens. Elle ne doit pas être toujours dans la répression. Pouvoir filmer des interventions, c'est fondamental. C'est aussi le droit d'informer. Pour nous, c'est vraiment super important.
Des artistes, des musiciens, des danseurs amateurs de Free Party ont rejoint le cortège, car il s'agit aussi de défendre la culture, explique l'avocat Arié Halimi, membre de la Ligue des droits de l'homme.
La culture n'existe plus depuis un an. Il y a des priorités qui ont été choisies par le gouvernement, des priorités économiques qui font qu'il nous envoie travailler et il nous envoie dormir le soir, et qu'on n'en a plus d'autre existence que cette existence biologique. Vivre, c'est aussi vivre culturellement, artistiquement, par le droit de manifester, vivre politiquement, c'est tout ça vivre. Ça n'est pas que travailler et dormir.
Les opposants à la loi sur la sécurité globale promettent de manifester tant que le texte n'aura pas été retiré ou amendé.
Yann Gallic, le géant Amazon, objet également de manifestation aujourd'hui, la plus importante, a rassemblé près d'un millier de personnes près de Pont du Gard, où le géant américain compte installer un entrepôt. Ce coup de force maintenant de supporters de l'OM en colère à la Commanderie cet après-midi, le centre d'entraînement du club. Ils étaient environ 300, Jean-Saint-Marc.
Effectivement, 300 supporters qui sont rentrés de force au centre d'entraînement, la Commanderie, et le défenseur Alvaro González a été frappé par un de ses ultras. Il n'est pas blessé, me précise un membre de son entourage qui a tout de même été impressionné par la violence de la scène. Vers 14h20, 300 ultras ont fait le siège de la Commanderie. Ils ont lancé des dizaines de fumigènes, des pétards, ont allumé des pots de fumée. Dans la panique, plusieurs d'entre eux ont réussi à rentrer dans le centre d'entraînement. Il y avait 30 policiers qui montaient la garde, mais ils ont été débordés. D'ailleurs, 7 policiers ont été blessés. Selon plusieurs sources, certains supporters ont saccagé le bâtiment sportif où se trouvait André Villas-Boas, l'entraîneur de l'OM, et ses joueurs. Le quart du club a été caillassé. Des tags hostiles recouvrent désormais l'entrée de la Commanderie. Les policiers ont réussi à disperser les 300 ultras grâce à des renforts. 25 supporters ont été interpellés. Maintenant, la question du maintien de la rencontre face à Rennes ce soir se pose. Le match était prévu à 21h, mais il est probable que les autorités vont reporter la rencontre pour éviter de nouvelles violences.
Merci Jean-Saint-Marc. Et justement, la suite de la 22e journée de Ligue 1 de football, un match en cours, Montpellier-Lens, 1-0 actuellement pour Lens.
François Lepage, et puis il y a aussi du rugby, signalons la victoire tout à l'heure de Bordeaux-Bègles, 37-36 face à Clermont.
Actuellement, des formes plus contagieuses du coronavirus circulent. Nous devons rester extrêmement vigilants. La stricte application quotidienne des gestes barrières reste primordiale pour lutter contre l'épidémie. Il est également essentiel de respecter les mesures d'isolement et de se faire tester aux moindres symptômes. Ensemble, continuons de prendre soin les uns des autres. Ceci est un message du ministère des Solidarités et de la Santé.
France Info, 17h-20h, Augustin Rivet.
Le respect indispensable des gestes barrières, toujours, mais pas encore de reconfinement. La réaction d'un infectiologue après le Fil Info, il est 18h10, François Lepage.
Le rideau est désormais baissé, 400 galeries marchandes et centres commerciaux fermés pour au moins un mois. Cela concerne les centres commerciaux non alimentaires, mesure destinée à lutter contre la pandémie. Les professionnels du secteur sont en colère, ils dénoncent une mesure gadget. Autre mesure en vigueur dès ce soir, la fermeture des frontières françaises pour tous les voyages hors Union européenne, sauf motif impérieux. Pour ceux qui viennent des pays de l'Union, il faudra présenter un test PCR négatif, y compris pour les automobilistes et les passagers des trains. Les suites de l'agression sauvage de Youri, il y a maintenant 15 jours à Paris, 9 jeunes ont été déférés devant un juge aujourd'hui. Le parquet demande la détention provisoire pour 7 d'entre eux et un placement sous contrôle judiciaire pour 2 autres. Des rassemblements organisés dans une cinquantaine de villes en France. Nouvelle mobilisation contre la loi sécurité globale. Quelques dispersions sous tension, mais pas d'incident majeur à Paris. Ils étaient ainsi entre 1000 et 2000 rassemblés place de la République. Les intempéries en France. 24 départements désormais en vigilance orange pour les crues et inondations, mais aussi pour le risque de vagues submersion. Cela concerne le sud-ouest, une partie de la Normandie, les Hauts-de-France et le nord-est du pays.
France Info.
Après un mois de confinement, il y a encore plus de 35 000 patients Covid dans les hôpitaux britanniques. Richard Place, notre correspondant au Royaume-Uni, a recueilli le témoignage d'une infirmière d'un hôpital du Yorkshire. Elle évolue dans un service d'oncologie, mais elle ne peut plus travailler comme elle le voudrait.
Holly ne va pas bien. Elle a contracté le virus en avril. Elle sait comment, elle en est persuadée, dans une ambulance où elle accompagnait un malade, testé positif ensuite. Holly ne s'est pas complètement remise. Parfois, elle n'a pas la force d'aller travailler. Depuis le confinement, elle fait aussi l'école à la maison pour sa fille de 9 ans. Mais régulièrement, l'après-midi, elle doit aller se coucher.
Je me sens très coupable. Je suis extrêmement fatiguée, j'ai des vertiges, je suis à bout de souffle. Ça dure quelques semaines et puis ça va mieux. Ça revient sans cesse. C'est compliqué de savoir à l'avance dans quel état je serai. Je me sens frustrée d'être la moitié de la femme que j'étais avant le Covid.
Quand elle travaille, elle voit les limites de son service. Les patients ne bénéficient pas de la même attention que d'habitude. Pourtant, il s'agit parfois de gens touchés par un cancer avancé. Il ne faut pas perdre de temps et assurer un suivi pointilleux. Mais entre les soignants touchés eux-mêmes par le virus et ceux qui sont réquisitionnés pour s'occuper des patients Covid, ce n'est plus possible. Le confinement, elle pense que c'est la seule solution, mais plus stricte encore qu'il ne l'est actuellement, et il a sans doute été décidé trop tard, selon elle. Londres, Richard Place, France Info.
La question d'un confinement se pose légitimement. Voilà ce qu'a reconnu hier soir Jean Castex, tout en nous expliquant que nous avions encore une chance en France d'éviter une telle mesure. Il n'y a que les grandes surfaces qui fermeront. Bonsoir Benjamin Davido.
Bonsoir.
Vous êtes infectiologue à l'hôpital Raymond Poincaré de Garches. Le Premier ministre s'est justifié en disant « Nous connaissons l'impact très lourd d'un confinement sur tous les plans ». On pourrait ajouter, en entendant le témoignage de cette infirmière britannique, que même le confinement n'est pas toujours une solution miracle. Est-ce que ce qui a été choisi, ça vous paraît adapté à la situation française ?
Écoutez, en tout cas, c'est une mesure audacieuse qui a le mérite d'innover, si c'est cela, le troisième confinement qu'on attendait. Et très clairement, il faut rappeler qu'on est dans une situation particulière en France, de bons élèves, on peut le dire, car depuis le mois d'octobre, on n'a jamais déconfiné. On a enchaîné confinement, couvre-feu, et donc ça nous permet d'avoir des chiffres qui sont globalement hauts, bien sûr, mais qui sont moins mauvais que le reste de l'Europe, et de se laisser peut-être la singularité française d'essayer d'avoir des mesures associées au couvre-feu pour contenir ces différents variants.
Oui, mais alors vous parlez d'une mesure audacieuse. Quand on parle de vie humaine, est-ce qu'il faut avoir de l'audace ?
Écoutez, en tout cas, ce qui a été dit les jours derniers, c'est que manifestement, et notamment par mes collègues pédopsychiatres, qu'il y avait une augmentation des suicides chez les jeunes, qu'il y avait une difficulté à cette résilience, à l'abnégation face à la maladie, au Covid. Donc je pense que c'est extrêmement difficile, cette décision, qui est une décision politique, qui est de concilier le médical, l'économie, le psychologique. Je ne sais pas s'il y a une bonne ou une mauvaise réponse à cela. En tout cas, le choix de confiner, il faut qu'on se le dise, c'est lorsqu'on n'a plus de solution. Il n'y a pas besoin d'être un éminent scientifique ou politique pour confiner un pays. Ça date du Moyen-Âge, hein, c'est ce qu'on faisait pour la peste. Vous limitez les contacts entre les individus au maximum, et fort est de constater que lorsqu'il n'y a plus de lien humain, mais il n'y a plus de lien pour le virus et il n'y a plus de chaîne de transmission. Maintenant, ce qu'on peut espérer, c'est que l'épidémie diminue d'elle-même au printemps, au beau jour, parce qu'on sait que les maladies respiratoires, comme la grippe, même si c'est un coronavirus, ont des particularités, des saisonnalités. C'est comme ça, tous les virus ont des saisonnalités. Et qu'il faut tenir bon encore sur la durée. La question est-ce qu'un confinement, ça nous permet de tenir sur la durée ? Je ne sais pas, mais et pareil, il faut accepter que si on décide de reconfiner dans quelques jours, quelques semaines, on va confiner pour 6 à 8 semaines. Et donc, ça sera extrêmement dur. Et donc, ça aura un coût aussi, malheureusement, humainement, aussi en vie humaine, parce que ce n'est pas parce qu'on confine demain qu'on aura l'effet après-demain.
Nous étions avec vous sur France Info au moment de la généralisation du couvre-feu à 18h. Et vous disiez, en paraphrasant les bronzés, ça va permettre de gagner du temps. Et sur un malentendu, ça pourrait marcher. Est-ce que vous avez l'impression que c'est en train de marcher pour l'instant, ce couvre-feu à 18h, et qu'on peut effectivement, comme le pense Jean Castex, éviter ce reconfinement ?
Alors très clairement, le couvre-feu seul ne suffira pas, parce qu'encore une fois, dans cette période hivernale, on sait qu'on a des conditions propices à la transmission des agents infectieux. Il faut d'ailleurs rappeler que les années précédentes, les médecins infectiologues, on ne nous entendait pas, mais on vivait ces mêmes épidémies par d'autres virus, par le virus de la grippe au plus fort à la fin du mois de janvier, et qu'on avait besoin très souvent dans l'urgence de déployer des lits. Donc cette augmentation, elle n'est pas étonnante. Maintenant, la vraie question, c'est est-ce que l'association de mesures au couvre-feu sera suffisante ? Moi, je crois crois qu'il faut aller plus loin parce que la réalité, c'est comment bloquer la transmission de cet agent infectieux. Pour bloquer la transmission de cet agent infectieux, il faut limiter au strict minimum nos déplacements et nos contacts pour éviter les brassages d'individus. C'est un petit peu le vœu pieux de fermer ces grands centres commerciaux pour finalement qu'on se retrouve à aller faire les courses à la supérette et à nos commerces de proximité sur un rayon qu'on peut estimer à environ quelques kilomètres. Et dans cet même état d'esprit, je pense qu'à la veille des vacances, il faut absolument qu'on ait réglé la question de savoir qu'est-ce que font les individus, qu'est-ce que font les Français. Les vacances, c'est le 6 février. Et si tout le monde part et qu'il y a des va-et-vient incessants, on va se retrouver là avec une vague épidémique et couvre-feu ou confinement ou tout ce que vous voulez. Ça ne suffira pas à contenir la transmission de cet agent infectieux.
Ça veut dire obliger à nouveau une limite, un périmètre de 2 km, 20 km ou quelque autre distance autour de chaque foyer.
Mais écoutez, en tout cas, je sais que c'est ce qui a été fait en Italie pour éviter les déplacements interrégions au début du mois de janvier parce que l'épidémie était repartie très haut et que ça a permis d'observer rapidement une efficacité de cette mesure. Et donc, on sait bien que ce sont les déplacements des individus qui créent ces brassages. Il suffit de regarder dans le rétroviseur, il n'y a pas besoin d'attendre le mois prochain. En février dernier, les premiers clusters étaient décrits dans les Alpes françaises, aux Contamines. Et c'est à la fin des vacances scolaires qu'on a eu cette augmentation et dû confiner dans l'urgence au mois de mars. Donc, on est dans un espèce de dilemme. C'est très difficile de prédire l'avenir. C'est plus facile de regarder l'histoire. Il n'y a pas de bonne ou de mauvaise solution, à mon avis. Mais ce qu'on a appris aussi de cette épidémie, parce qu'on a des nouveaux outils aujourd'hui, hormis les traitements, on sait maintenant tester massivement et on commence du moins à savoir tracer. Il faut se servir d'outils numériques pour mieux tracer et surtout mieux tracer les individus attendus variants. Parce que, qu'on se le dise, aujourd'hui, on est presque dans un confinement ou anticipatoire, c'est-à-dire que c'est la peur du variant et de l'augmentation exponentielle de l'épidémie qui nous oblige à d'abord des mesures associées au couvre-feu et à ces réflexions. Et aujourd'hui, on estime à 2000 cas atteints du variant par jour et on sait qu'à moins de 5000 cas positifs, on peut surveiller ces individus. Et donc, je pense que la clé de voûte, c'est de ne pas pénaliser l'ensemble des Français. On l'a fait il y a un an parce que malheureusement, il y a un an, on ne pouvait pas tester massivement. Il faut se rappeler d'où on vient. On testait exclusivement les malades graves à l'hôpital. Et donc, on avait pris le parti de confiner le pays pour considérer que tous les Français étaient malades jusqu'à preuve du contraire. Aujourd'hui, on peut faire ce distinguo, on peut même aller plus loin, on peut faire le distinguo des individus atteints du variant.
Et donc cette moi, part je crois du variant anglais qui effectivement augmente dans les tests positifs et c'est vrai sensiblement en Île-de-France. Merci Benjamin Davido, infectiologue à l'hôpital Raymond Poincaré de Garches. On retrouve les